7h25 minutes. Alors, on a eu le tableau hier, 75% du territoire québécois, la population, est dans un mode jaune. Prochaine étape, il semble que c'est pour bientôt dans certains coins du Québec, ce sera l'étape orange avec des mesures de restriction encore plus sévères. On fait le point avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Monsieur Dubé, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Arcand.
Première question, hier, quand vous avez fait le bilan et quand vous avez expliqué la pression qui s'exerçait sur le réseau de la santé, on le mesure avec le taux d'occupation à l'urgence, avec problème de recrutement d'infirmières. Mais en même temps, vous annoncez des mesures, pas de nourriture dans les bars après minuit, puis de porter le masque dans les résidences pour personnes âgées. J'essaie juste de savoir ce que vous tentez de faire. Vous parlez à des gens qui sont convaincus. Qu'est-ce que vous faites avec les récalcitrants puis les insouciants concrètement?
Ben écoutez, nous, on s'adresse à la grande majorité de la population. Je dis toujours le 99 %. Puis en même temps, ben, je ne veux pas leur donner trop d'importance parce que je pense que ces gens-là vont finir par comprendre à un moment donné qu'ils ne sont pas à l'abri de contracter le virus eux autres non plus. Alors, j'aimerais mieux pas trop leur donner d'importance parce que nous, notre rôle, c'est de s'occuper de la population puis de la population qui les respecte, les règles. Alors maintenant, oui, effectivement, hier, on a changé de couleur pour quatre régions, dont Montréal. Et je crois que à la vitesse où évoluent les choses, je l'ai bien mentionné, il se pourrait qu'on aille à prendre des décisions très difficiles dans les prochains jours. Parce que, rappelez-vous que ce qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est que le niveau d'alerte, lorsqu'on passait au jaune, c'était justement pour prévenir les gens qu'on n'allait pas dans la bonne direction. Mais le virus, il frappe fort puis il frappe vite. Alors, moi, je me suis engagé que si on avait à prendre des décisions difficiles rapidement, bien, il se pourrait qu'on passe au code orange très rapidement. Puis là, les mesures dont vous parlez, qui pourraient impliquer la fermeture des bars, des choses comme ça, seraient prises. Alors, on n'est pas loin de ça. Puis je pense qu'au moins, on aura donné la chance à la population de savoir que ça s'en venait. Puis c'est pour ça qu'on a fait le code de couleur comme on l'a fait.
Mais ce que je comprends de déclarations antérieures, il est hors de question de faire un confinement mur à mur. Ce que vous allez faire, c'est d'annoncer des mesures plus strictes selon les régions, là.
Tout à fait. Et c'est pour ça que je parle de Montréal, parce que on y voit les chiffres évoluer. Rappelez-vous, on était un petit peu en bas de 200 il y a 10 jours. On est monté à 200. Là, on roule pas loin de 300. Puis avec le nombre de tests qu'on fait à tous les jours, il se pourrait qu'on ait des nouvelles dans les prochains jours qui soient pas tout à fait positives parce que, justement, il y a encore des parties privées, il y a encore de ces choses-là qui se passent qui augmentent le nombre de cas. Et on a vu, malheureusement, puis là, je pense que les gens le voient, sans rendre compte, que là, on a l'augmentation des hospitalisations. On a eu, dans les derniers jours, une augmentation des décès. Alors là, on commence à voir l'effet de l'augmentation des cas. C'est ce qu'on disait depuis quand même quelques semaines. Malheureusement, les gens ne le voyaient pas. Ils voyaient augmenter les cas, mais ne voyaient pas l'impact. Nous, on le voit sur le réseau de la santé, mais là, si on commence à le voir depuis quelques jours avec le nombre d'hospitalisations et aux soins intensifs, bien là, écoutez, je pense que les gens vont comprendre si on a à prendre des décisions difficiles dans les prochains jours.
Quand vous parlez de cette pression sur le réseau de la santé, on le voit avec plusieurs facteurs, là. Mais parlons des infirmières. Je donnais l'exemple tantôt d'une infirmière qui travaille dans une salle d'urgence, qui, habituellement, le quart de travail, là, c'est presque devenu la norme, c'est moins 2 personnes, moins 3 personnes, des quarts de 16 heures. Je regarde ce matin, le Québec compte de plus en plus d'infirmiers, d'infirmières, mais il y a toujours une pénurie. Donc, on semble dire qu'en termes absolus, on manque pas de personnel disponible. Il y en a en masse des infirmières. Elles veulent pas travailler dans le réseau de la santé. Qu'est-ce que vous allez faire pour les attirer ou les garder?
Bon, c'est une question facile, ça, ce matin. Écoutez, je vais prendre l'angle sur quelques points. Premièrement, il y a effectivement le nombre, je dirais, le bon nombre d'infirmières. Là, on pourrait en rajouter, c'est certain, mais on a le bon nombre. Il y a beaucoup une question d'organisation de travail. On a beaucoup, on l'a dit, là, d'infirmières qui sont à temps partiel et qui fait que pour être capable d'aller chercher le bon nombre d'heures totales doivent faire énormément de temps supplémentaire. Fait que ça, dans les négociations collectives que l'on a en ce moment, c'est un des enjeux qu'il va falloir adresser quand on va avoir fini nos négociations. Ça, c'est un gros élément, c'est l'organisation du travail. Deuxièmement, quand vous me dites qu'on en a suffisamment, puis je pense qu'effectivement, il y a 3500 personnes qui sont présentées comme candidates là, aux examens, il y a eu cet été un effet qui est temporaire, puis je pense que les gens doivent le comprendre, c'est qu'étant donné le COVID qu'on avait vécu au printemps, on a donné beaucoup de vacances et, à la fin de l'été, puis ça, je pense que le personnel le méritait, mais on a augmenté, on a allongé la période de vacances. Habituellement, ça se finit le 15 septembre, puis on a extensionné jusqu'au 30 septembre. Alors, imaginez, plus d'infirmières en vacances et plus d'infirmières qui sont allées passer leurs examens, ça, c'est les deux derniers week-ends. Alors, quand vous additionnez tout ça ensemble, vous allez comprendre qu'il y a des éléments structurels, ce que j'ai expliqué tantôt, peut-être une meilleure gouvernance, une meilleure arrimage avec les heures supplémentaires, mais aussi la situation temporaire que l'on vit. Et c'est pour ça que je pense qu'on a de bonnes discussions en ce moment entre Mme Lebel au Conseil du Trésor et Mme Bédard pour être capable de régler ces enjeux-là. Mais on vit un moment très difficile au moment où il y a beaucoup de pression sur le système de santé. Alors, je pense qu'il faut régler le cas des infirmières dans les prochaines semaines pour être capable d'être prêt le plus rapidement si, malheureusement, on avait une deuxième vague.
Dans le fond, l'argument qui reste, à part l'argument de la coercition, là, pour convaincre des gens qui sont récalcitrants, c'est de dire, par votre insouciance ou votre bravade, vous mettez en danger des gens qui sont proches de vous et vous... Peut-être que vous-même vous mettez en danger, mais ça a l'air que ça ne vous dérange pas. Mais surtout, vous allez accroître la pression sur le réseau. Donc, quelqu'un qui est en attente pour une opération, quelqu'un qui a besoin d'un suivi, on sait c'est quoi l'effet. Là. Les infirmières sont mobilisées, il y a moins d'opérations, les blocs opératoires ne fonctionnent pas à pleine capacité. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que les non-COVID, les patients non-COVID sont pénalisés.
Exactement. Puis c'est, je pense que... Bon, je vais faire attention à mes termes. Des fois, je suis un peu dur, là, mais il y a les insouciants, là, puis ceux qu'on ne pourra pas convaincre. Puis là, c'est jusqu'à maintenant, on avait été assez patients parce qu'on n'avait pas mis de pénalité. Mais là, plus on se rapproche de la zone orange, là, maintenant qu'on a tout le monde va être en zone alerte, bien là, il y aura peut-être des mesures qui vont être beaucoup plus sévères. La zone jaune, je le répète, c'était de faire plus d'inspections. On a les moyens maintenant de faire des contraventions, parce qu'avant, c'était seulement des constats, puis c'était assez compliqué de se rendre à la pénalité. Mais maintenant, dans la zone jaune, on peut le faire. Est-ce qu'on les appelle des insouciants ou des gens qui n'ont pas encore compris l'impact du virus? Moi, pour moi, c'est pas le terme qui est important. Alors, ces gens-là, maintenant que... Et je pense qu'il y a un besoin aussi des pairs, de la population en général, de convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus. Et c'est ça notre rôle. Bon, maintenant, on va mettre beaucoup de points en communication cette semaine parce que justement, d'être dans la zone jaune nous permet de faire ce message-là très clair aux gens de Montréal, mais aux gens de partout au Québec.
L'autre question qui est importante, puis je reviens un peu aux mesures. Si d'ici les prochains jours, certaines régions du Québec tombe en code orange, est-ce que les mesures vont s'appliquer pour l'ensemble de la région ou pour les endroits qui sont, disons, plus ciblés? Si dans le Bas-Saint-Laurent, c'est la Pocatière et c'est Rivière-du-Loup, allez-vous appliquer le remède à la grandeur de la région?
Bon, mais c'est ça. Je vous remercie parce qu'on n'avait peut-être pas été dans ce niveau-là quand on a présenté là, la semaine dernière. Mais lorsqu'on parlait, M. Arcand, des sous-régions, c'est exactement ça qu'on voulait dire. Parce que de mettre Montréal dans la zone jaune, encore une fois, il n'y a pas tellement de mesures. C'est de l'alerte, puis c'est des inspections. Mais là, lorsqu'on va passer à des mesures plus importantes, comme la fermeture, par exemple, de bars ou de restaurants, ou de fermeture spécifique de certains établissements, mais là, c'est sûr qu'on va le regarder avec un peu plus de, je dis souvent, de granularité, là, mais on va être plus ciblé parce que, bon... Le Bas-Saint-Laurent, c'est grand. La capitale nationale entre la Malbaie et Portneuf, c'est grand aussi. Alors, il va falloir être très ciblé. Puis Montréal aussi, c'est très grand. Alors, donc, il va falloir... Et c'est là-dessus qu'on travaille, parce que les chiffres qu'on voit, là, je le dis, sont pas très encourageants en ce moment. Donc, si on veut être agile, on va réagir, mais on va réagir de la bonne façon. Et c'est pour ça qu'on a mis tout le monde en mode alerte.
OK. En terminant, je ne veux pas le chiffre précis, là, mais j'imagine que vous avez eu les chiffres déjà qui seront annoncés plus tard. Là. Est-ce que c'est à la hausse, c'est stable ou ça descend?
Bien, je vais attendre un peu parce que, vous savez, un des enjeux qu'on a avec le nombre de tests qu'on fait en ce moment, on a toujours, c'est quoi l'expression, là, un backlog, là, les gens vont me comprendre, là, de une ou deux journées. Ça fait que j'aimerais mieux me garder une petite gêne et c'est pour ça que je vous dirais qu'on attend là, les deux prochains jours pour avoir une très bonne idée de la tendance qu'on a en ce moment.
OK. Parlons de ces tests. J'ai encore régulièrement des gens qui se plaignent en disant « on a passé le test, on n'a pas de réponse, ça fait 4 jours, ça fait 5 jours, je ne vais pas travailler, je perds de l'argent. » On se fait répondre « oui, mais si c'était positif, on vous aurait appelé plus vite. » Mais en même temps, on dirait qu'on n'est pas capable de prendre le dessus là, pour transmettre la réponse aux Québécois.
Ben, il y a deux éléments. Vous avez, moi, je l'aime pas, je l'ai dit là, que notre service devait être amélioré, mais je veux que les gens se rendent compte de deux choses. Premièrement, on est passé à une moyenne de 10-12 000 il y a un mois à presque 25 000 cette semaine. Ça fait que, au moins, la bonne nouvelle, la première bonne nouvelle, c'est qu'on fait plus de tests. Bon, maintenant, je vous dis, le service n'est pas là. La qualité du service n'est pas là. Puis c'est pas, j'en suis pas aux infirmiers ou aux infirmières qui passent les tests. Je pense du tas de réponses. Mais là-dessus, avec l'équipe là, qu'on a constituée, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a certains six là, qui avaient trouvé, eux autres, la façon un peu de pas respecter la loi, mais d'être plus efficace. Puis je pense en ce moment, on a besoin de ça, de communiquer les résultats par texto ou par courriel, bien que en théorie, on ne peut pas envoyer un résultat d'examen de cette façon-là. Alors là, moi, j'ai demandé sur les formulaires, maintenant que les gens vont signer, qu'il y ait une entente où les gens disent « j'accepte de me faire de le recevoir par courriel ou par texto » parce que, justement, on a un problème. Les gens ne répondent pas à leur téléphone, puis ça prenait une infirmière qui, des fois, faisait 3-4 appels avant de rejoindre la personne. Mais là, ce n'est pas du bon temps qui est investi. Alors, donc, il y a toutes des petites choses comme ça qu'on est en train de régler. Des fois, vous savez, la machine est complexe. Alors là, faut régler ces petites choses-là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on teste beaucoup plus, puis moi, je veux qu'on teste encore plus, mais plus efficacement dans les prochaines semaines.
OK, merci, M. Dubé. Bonne journée.
Merci, M.
Dubé. Au revoir. Christian Dubé, le ministre de la Santé. Il y a un auditeur qui, je pense, résume très bien, en fait, qui envoie le message le plus clair possible. Les gens qui refusent systématiquement de porter un masque, de ne pas avoir le 2 mètres de distance, ce sont des gens qui vont peut-être un jour réaliser qu'un de leurs proches va avoir un diagnostic d'une maladie sérieuse en retard ou encore ne pourra pas avoir les traitements. Puis ceux qui pensent que je m'énerve et que je veux faire peur au monde avec ça, là, c'est que vous n'avez pas les deux pieds dans le réseau de la santé puis vous ne parlez pas avec les gens du réseau de la santé. Il y a des gens qui attendent d'être opérés et que s'il y a cette pression qui est multipliée, ben, ils vont attendre encore assez longtemps. Donc, les insouciants, les récalcitrants, pensez pas nécessairement à vous autres, pensez aux gens autour de vous. Ça peut-être aider à la réflexion. 7h38.